Merci Bruno Amable pour cette exposition. Donc la tâche revient à Jacques Delplat.
Merci beaucoup. J'ai trouvé les deux premiers orateurs très durs en disant qu'il n'y avait pas d'évolution des croyances en France, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, de très étonnant qui s'est passé depuis une semaine. Le dernier bastion de l'autogestion en France, si quelque part Boulevard Saint-Germain vers la rue de Solferino, est tombé en direct le week-end dernier, et nous dit-on, il y a un modèle disciplinaire hiérarchique et qui le remplace. Donc il y a une évolution des croyances en France, et notable sous nos yeux. Et donc je voudrais revenir un peu sur l'article de Bruno Hoc, que j'ai trouvé intéressant et étonnant. Alors, la version qui m'avait été donnée couvre les deux tiers ou la moitié de ce qu'il a dit. Et je trouve qu'il pose des questions, il résout peu d'entre elles à la fin, mais je pense que c'est le débat. Et on voit trois points dans son article qui sont une description d'un modèle européen sur lequel je reviendrai, avec un grand méchant loup libéral qui est pas loin, en Europe d'ailleurs. Un survey des attitudes politiques et puis le vrai grand méchant qui est Lisbonne. Et j'en reparlerai. Donc on a du papier, un article intéressant, enfin des énoncés sur ce que sont le modèle européen. Alors je trouve ça très intéressant, on a une espèce d'idéal type qui se veut un peu weberien, puisque Weber est convoqué plusieurs fois, où il y a toute la croyance mythique entre le bon modèle social-démocrate qui est censé avoir bien marché, où il y avait un État qui fonctionnait bien, qui intervenait beaucoup, des syndicats qui faisaient des négociations salariales. Donc il y a à la fois des morceaux de ce qui s'est passé en Scandinavie, en Allemagne, mais j'ai jamais vu en France, j'ai regardé assez longuement jusqu'aux années 60, il n'y a jamais eu de négociations salariales avec des syndicats en France, autant qu'ils nous souviennent, à part mai 68 et avant les années 60, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, mais donc il y a convocation d'un mythe qui serait le modèle social européen puisqu'il est le président de la République cité, qui est cher au président de la République, et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais beaucoup aimé un article de recherche d'André Sapir chez Bruegel qui montrait bien que ce modèle européen était un mythe et au mieux on pouvait avoir un modèle social-démocrate, un modèle germano-germain, anglo-saxon et mitterranien, et la France étant peut-être un cinquième modèle par ailleurs. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, il y a une convocation d'un mythique un peu d'un modèle qui aurait été merveilleux. Enfin, ça n'est pas dit, mais on le comprend. Alors je trouve intéressant, j'ai vu récemment que le droit du travail était en France extrêmement flexible jusqu'aux années 75. Hein, donc il y a un peu des contradictions dans cette description du modèle. Alors je fais exprès un peu de boucher le bouchon pour monter, pour faire lancer le débat. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que de temps en temps, on a vu au travers des articles des filles pavillons de Ricardo Caballero comment ce modèle qui est essentiellement un modèle de rattrapage est assez peu à même de permettre la croissance quand on a la frontière technologique. Par ailleurs, toujours dans cette première partie de l'article, j'étais un petit peu étonné de cette idée vraiment c'est un peu après discuter d'une espèce de welfare state où il y aurait qui serait pas flexible. Alors, une fois de plus, c'est très banal à dire. Alors c'est redit après qu'il y a des modèles, les modèles suédois dont on parle souvent, ou danois, sont quand même, supposent une flexibilité du marché du travail extrême et du marché des produits très fort. Voilà. Par ailleurs, j'ai pas non plus compris pourquoi dans cette opposition entre ou dans ce modèle qui sera attaqué. Pourquoi le welfare state serait vraiment les coûts du travail, enfin les coûts du travail seraient tant un obstacle à la baisse du chômage, puisqu'en fait, après tout, ce n'est guère que des salaires différés, donc on aura bien des problèmes de productivité du travail. Alors la deuxième partie est sur des histoires d'opinion qui vous ont été montrées, où l'idée est essentiellement de regarder l'opposition droite-gauche demeure. Et là, j'aurais une question à poser. C'est vrai qu'il y a, on le voit encore dans cette campagne électorale, un affrontement droite-gauche assez fort. J'ai été très marqué par une lecture récente d'un livre d'Alberto Lessina et Glaser sur le pourquoi il y a des welfare states différents de part et d'autre de l'Atlantique. Et leur point de vue, c'est pas parce que les Américains sont plus entrepreneuriaux ou autres. Il y a deux raisons. Une raison institutionnelle, que les institutions politiques américaines datent de la fin du 18e, début du 19e, à l'époque conservatrice. Deuxième argument, donc ça c'est pas transposable chez nous. Le deuxième argument, c'est le racisme. Donc grosso modo, quand je suis aux États-Unis, je suis prêt à payer du welfare dans certains États du Nord, parce qu'on est tous blancs et descendants de Norvégiens et d'Allemands. Et en revanche, quand je suis dans l'Alabama, il y a peu de volonté de payer du welfare, et on peut le tester, puisqu'effectivement, il y a une partie des programmes fédéraux où il y a pour un dollar donné par l'État fédéral, un dollar de welfare. Non. Chaque fois que l'État local donne un dollar, l'État fédéral abonde aussi d'un dollar. Donc on voit très bien que dans les endroits pauvres, où les autorités politiques locales auraient intérêt à jouer ce jeu-là, elles ne le font pas, parce que l'essentiel des pauvres sont noirs, et l'essentiel des contributeurs sont, et des électeurs sont blancs. Et quand on voit un élément du débat, notamment à l'extrême droite en France et en Europe, ça a commencé par l'Autriche, on a vu ça récemment en Italie, en Belgique, en tout cas dans la partie flamande. C'est une question que je laisse à l'ouverture. Est-ce que c'est pas là une évolution possible du débat sur le welfare state et la réforme politique? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un débat là-dessus sur est-ce que je suis prêt à payer pour des gens qui ne sont pas semblables à moi? Je ne prends pas du tout la chose à mon compte, mais je pense que c'est évidemment à mettre sur le débat. Alors, première partie, l'article est sur Lisbonne. Alors, j'ai trouvé ça un peu caricatural. Pourquoi? Parce que je pense que Bruno Amable prend Lisbonne trop au sérieux. J'étais très très étonné. Il donne une importance. Il y a ce processus de Lisbonne. Alors il y a un et deux. En fait, il n'y a pas un et deux, il n'y en a pas. Il y a une tentative de Lisbonne. Enfin, effectivement, il y a des textes qui s'appellent Lisbonne, mais j'ai jamais vu un gouvernement faire des réformes à cause de Lisbonne. Il y a les petits pays qui en font parce qu'ils sont price takers dans le monde et parce que ils sont à la table maintenant. Peut-être qu'ils croient, j'ai pas de. Mais les quatre. Non, je crois pas. Enfin, tu crois que le Portugal y croit?
Je sais pas, comme c'est Lisbonne, c'est
quand même... c'est vrai, tu as raison. Mais c'est vrai qu'à part si on prend les grands pays, j'en ai vu aucun qui ait décidé de faire une réforme à cause de Lisbonne. Alors après, on va peut-être badigeonner ça avec du Lisbonne, je sais pas. Mais ce n'est jamais un débat interne. La seule chose, c'est que ça montre à quel point on n'est pas bien. Je veux dire, mais c'est la même chose que le classement de Jin Tao, là, qui montrait que... Alors c'est faux, c'est classement, mais c'est juste que ça a mis un peu un choc... Voilà. Alors j'ai trouvé ça étonnant, alors notamment j'ai mis du temps à découvrir le nom de ce monsieur Luc Sauteux, et j'ai trouvé que l'article y donnait une importance extrême. Mais peut-être qu'il a travaillé pour monsieur Tony Blair pour des contributions de la Grande-Bretagne à Lisbonne, mais franchement on s'en fiche complètement. Je pense que ça a un impact sur la réalité proche de zéro. Enfin, et pourquoi c'est... Parce qu'essentiellement tout ce qui est dans Lisbonne, et au-delà de tout le processus européen, c'est des choses totalement domestiques. C'est-à-dire tout ce qui est sur la table de l'agenda, qu'on soit pour gauche ou droite, c'est pas grave, pour l'ancienne économie ou la nouvelle, je sais pas. Mais les problèmes de chômage sont d'abord essentiellement domestiques. Les problèmes de santé, alors là, complètement. Il n'y a rien au niveau européen de la santé. Les retraites, à part qu'on va compter ensemble au comité de Bruxelles combien c'est, avoir la même méthodologie pour mesurer les déficits futurs, voilà. Mais c'est totalement idiosyncratique. Et il y a raison d'ailleurs, j'ai aucune envie de payer pour la retraite italienne. L'éducation, c'est pareil, c'est totalement domestique. À part, on peut poser des questions sur la recherche de haut niveau, et peut-être. Mais l'éducation de base, 95% d'éducation, c'est purement homemade. La réforme de l'État aussi, je veux dire, on a tellement des États différents entre les fédéraux, les centralisés, les éclatés comme les Espagnols, etc. Et tout. Ça c'est purement... Puis vous imaginez les Français, si c'était Bruxelles qui nous imposerait tel type d'État. Donc tout ça, et pareil sur tout ce qui est un peu le welfare state en général, je veux dire, c'est des problèmes proprement domestiques. Donc y voir des histoires. C'est vrai qu'un certain nombre de gouvernements, notamment Jospin et Chirac en 2000, se sont décidés, oh, il y a Lisbonne qui passe, on va prendre ça pour faire un peu moderne et pour pousser des choses qui sont la réforme des retraites et autres. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait un plan concerté. Et donc, en fait, sauf les petits pays, les gouvernements se fichent absolument, complètement de Lisbonne. Donc, moi, je voudrais un petit peu revenir sur un sujet qui était un petit peu au début, c'est de la présentation de Rui Pauneuil. En fait, oui, il y a des perdants. Lui, il dit ben, il y a des réformes globalement positives, mais quand on dit que c'est globalement positif qu'on oublie les perdants, c'est qu'on s'assied dessus et que non, pas du tout. Hier, on sait tous, là je reviendrai à la première analyse de l'économie politique de la réforme du début, il y a, c'est classique, mais c'est assez bête, dans toute réforme, un, les gains sont à long terme et les coûts sont à court terme, et deux, les gains sont pour beaucoup de gens et les coûts sont pour peu de gens. Voilà. Alors, je vais, et je pense que c'est en partie l'idée de Jean quand il m'a fait venir ici. Moi, j'ai travaillé un petit peu là-dessus avec Charles Viplot là-dessus dans les derniers mois. On a essayé de faire une estimation de ce que serait un programme de rachat des rentes. Voilà. On a écouté ce que disent les gens de l'économie politique de la réforme en disant il y a un problème. Il y a des gens qui perdent et on ne le nie pas. Et alors on prend tous les catalogues traditionnels de l'économie politique des réformes. Ils sont concentrés. Il y a peu de gens qui prennent beaucoup de baffes quand il y a des réformes. Voilà. Tout ça, on le sait. Et donc, en fait, bon, il y a trois manières de. On pense qu'il y a trois manières de réformer tout ça. Il y a le premier, il y a le char d'assaut. Je prends mon char et les types qui sont devant, je les écrase. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ce qu'a fait la Grande-Bretagne au début des années 80. Alors, venant d'une situation assez terrible aussi. Je veux dire, c'est pour ça que quand il était dit qu'est-ce qui se passerait si la Grande-Bretagne était. Il y a une petite Grande-Britannique pendant 15 ans, à la Thatcher, quand il sortait d'un quasi-socialisme. Mais bon. Deuxième sujet, on est tous des gens sérieux, sympathiques, pas extrémistes, knowledgeable et charitables. Et donc on se met tous autour d'une table. En général, on parle un peu suédois et danois. Et on fait un grand compromis social. Voilà. Donc, juste, je pense qu'en France, ça n'arrivera pas pour plein de raisons. Il n'y a pas de syndicats, la tradition n'est pas là. Et troisièmement, donc, nous, l'idée qu'on a avec Charles Duploch, je fais un peu de publicité pour mon livre. Qui s'appelle La fin des privilèges, qui sera la semaine prochaine. L'idée, c'est de dire, on va regarder un certain nombre de secteurs, on a regardé 7, et les choses assez classiques, marché du travail, marché des services, la fonction publique, la PAC, etc. Et on a regardé qui perd, qui gagne, et on a essayé de regarder quelle était la valeur de marché des rentes. Alors on a décidé de manière un peu arbitraire de voir quels seraient les gains à 15 ans. Pourquoi 15 ans, ça fait 3 législatures. Et un horizon raisonnable pour le payeur des réformes. Et donc on a regardé, et en fait, ça coûte pas très cher de racheter les rentes en France. Et c'est probablement le seul moyen, à mon avis, sans révolution et sans cas social importante, de faire des réformes. Alors sous l'hypothèse qu'on ait un vague consensus sur les réformes à faire, mais là-dessus, ça sera. On a repris le programme de base de la social-démocratie européenne, du Nord ou du Middle of the Road européen. Et les chiffres qu'on a sont assez étonnants parce que grosso modo, quand on met le gain supplémentaire qui est sur 15 ans et la dette supplémentaire qu'on peut enlever en réformant les retraites, on a des gains qui sont en trillions d'euros sur 15 à 20 ans, alors que les coûts one shot sont de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros. Enfin, je sais pas. On a à peu près 20 points de PIB de coûts à front. Oui, excusez-moi, je suis fatigué. J'ai une otite et je ne m'entends pas parler. Alors. Oui, je parle à 1 milliard d'euros, excusez-moi. Donc on a regardé, on a un nombre de secteurs, on a pris alors le plus emblématique, les taxis, le rachat des licences, les services, l'absence de commerces notamment. Là-dessus, on converge complètement avec l'article récent de Philippe Askenazi sur que j'aime beaucoup sur la faillite et l'absurdité des lois sur le commerce et la distribution. Donc nous, on propose d'arracher la rente des petits commerçants. On regarde sur le marché du travail, on essaie de fournir une assurance liée en termes d'indemnisation du taux de chômage. Alors on a regardé en Europe où ça marchait mieux. On a fait un mixte danois pour le montant et autrichien pour le format. On a regardé un exemple que j'aime beaucoup qui est la fonction publique où on a dit aux gens il y a l'inefficacité, mais pourquoi on ne vous rachète pas votre droit à la fonction publique de manière totalement volontaire. Vous venez signer, on vous file un chèque qui correspond à la probabilité supplémentaire d'être au chômage si vous renoncez volontairement et individuellement au chômage, au statut de la fonction publique. Voilà. Et donc on décline ça sur les retraites, on propose de racheter une partie des années de retraite. Le rachat n'a pas être total, l'ampleur est tellement énorme. Tout ça en additionnant, tout ça c'est. Les chiffres sont faux par définition. Mais on arrive à quelque chose autour de 20 points de PIB pour non pas repeindre la maison, mais la refaire largement. Voilà. Tout ça pour dire dans une atmosphère où tout le monde dit qu'il faut absolument baisser la dette, donc on a voulu délibérément aller totalement dans l'autre sens et dire que ça dépend ce qu'il y a en face. Hein. Donc si c'est pour continuer à monter la dette sans qu'il y ait rien en face, c'est bien tout à fait absurde. Si c'est pour faire vraiment quelque chose en face, ça vaut le coup. Voilà.